Merci d'écouter RFI, 17h, temps universel, il est 19h à Paris.
RFI Soir, Alexis Guilleux.
Bonsoir et bienvenue dans RFI Soir, au programme des deux prochaines heures. Le débat dans 30 minutes consacré au phénomène de la violence chez les jeunes après une série de faits divers dramatiques impliquant des mineurs en France. Décryptage à 20h10, Clotilde Dumay se penche sur la domination chinoise sur le marché des voitures électriques. Et puis dans Afrique Soir, on parlera des premières discussions pour le retrait des troupes américaines du Niger. Mais tout de suite, le journal. Bonsoir Raphaël Rennes.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous. Emmanuel Macron met en garde contre la mort de l'Europe. Le président français prononçait son discours sur l'Union européenne après celui de 2017, second discours. Un discours aux accents dramatiques sur lequel nous reviendrons dès le début de ce journal avec Valérie Gasse. Le conseil présidentiel de transition a prêté serment en Haïti. 9 membres chargés de prendre les rênes d'un pays plongé dans une profonde crise politique et sécuritaire. Voilà qui ouvre la voie à la formation d'un nouveau gouvernement. Et puis en France, la disparition de Laurent Cantet, cinéaste qui avait obtenu la Palme d'Or à Cannes en 2008 pour son film Entre les Murs. Il est décédé ce jeudi.
On commence donc avec le discours sur l'Europe prononcé ce jeudi par Emmanuel Macron.
Un discours devant environ 500 invités dans le grand amphithéâtre de l'Université de la Sorbonne, comme il l'avait fait en 2017 après sa première élection. Le président de la République s'est exprimé pendant près de 2 heures. C'est le dossier de cette édition avec vous, Valérie Gasse. Bonsoir.
Bonsoir Raphaël.
Vous étiez sur place ce matin pour suivre ce discours fleuve et presque dramatique d'Emmanuel Macron qui décrit une Europe en danger de mort.
Oui, c'est vrai Raphaël. Emmanuel Macron a très vite planté le décor dans son discours. À peine fini le bilan des 7 années écoulées depuis son premier discours de la Sorbonne, le chef de l'État a fait un diagnostic alarmant, comme vous allez l'entendre.
Nous devons être lucides sur le fait que notre Europe, aujourd'hui, est mortelle. Elle peut mourir.
Hier encore, un cadre du parti présidentiel consulté par le président pour préparer ce discours me racontait qu'il cherchait la formule qui pouvait avoir un effet waouh. En d'autres termes, la formule qui pouvait marquer les esprits, eh bien, c'est clairement celle-là. Notre Europe est mortelle. Cela rappelle une autre phrase restée dans les annales présidentielles quand Emmanuel Macron avait estimé en 2019 que l'OTAN était en état de mort cérébrale.
Mais Valérie, pourquoi faire passer un tel message?
Eh bien, pour montrer que le moment est décisif et qu'il faut réagir, que l'Europe doit se réarmer, trouver les moyens d'assurer son autonomie stratégique en matière de défense et de sécurité d'abord, avec une préférence européenne, a dit le président, qu'elle doit aussi devenir une Europe puissance sur le plan économique, commercial, industriel, maîtriser ses frontières extérieures, lutter contre les ingérences et la propagande, qu'elle doit défendre ses valeurs, son humanisme et son modèle de démocratie libérale. Emmanuel Macron estime que l'Europe a réussi beaucoup de choses ces dernières années, par exemple dans la gestion des crises, Covid, guerre en Ukraine, mais qu'elle est menacée. Pour Emmanuel Macron, l'Europe est en situation d'encerclement entre les États-Unis, la Chine et la Russie, la puissance nucléaire qui a ramené la guerre sur le continent.
Est-ce que c'est un discours de campagne?
Eh bien, même si l'Élysée s'en défend, Emmanuel Macron a choisi de prononcer ce discours à quelques semaines du scrutin européen, alors que la campagne de la candidate de la majorité, Valérie Ayer, patine. Elle est distancée par Jordan Bardella, le candidat du RN, et menacée par le socialiste Raphaël Glucksmann. Alors oui, ce discours est destiné à avoir un impact dans la campagne. Il doit permettre d'ouvrir un nouveau chapitre dans la course électorale. D'ailleurs, Emmanuel Macron a mis en garde contre les incohérences des nationalistes, ses adversaires qui progressent en Europe. Son discours, c'est une vision, des propositions, donc une offre politique basée sur ce qu'il a appelé l'optimisme de la volonté dans la perspective des élections du 9 juin, la date d'un choix décisif pour l'avenir de l'Europe, a dit Emmanuel Macron. C'est aussi un choix décisif en France pour un président qui devra assumer les conséquences en cas de défaite lourde face au RN.
Dossier de la rédaction signé Valérie Gasse, chef du service politique d'RFI. Parmi les réactions à ce discours, celle de Manon Aubry qui ironise sur l'Europe puissance évoquée par le président français, vous en parliez Valérie, alors qu'il a organisé l'Europe de l'impuissance, déclare la tête de liste de la France insoumise aux européennes. Marine Le Pen, de son côté, dénonce un discours entre incantation et gesticulation.
Et quelques heures après le discours du chef de l'État à la Sorbonne, Jordan Bardella lance le duel avec le président.
La tête de liste RN aux européennes présentait son programme électoral appelant à sanctionner le gouvernement français et l'Europe de Macron pour ouvrir, dit-il, la voie à l'alternance. Un programme contre l'Europe bureaucratique et l'immigration massive déroulée par le candidat d'extrême droite qui s'est éclipsé après son discours, séchant la séance de questions des journalistes.
Les 9 membres du Conseil présidentiel de transition haïtien ont enfin prêté serment.
Et c'était ce matin à Port-au-Prince, une cérémonie en deux temps qui marque l'installation de ce Conseil et le début de sa mission, former un nouveau gouvernement et sortir le pays du marasme sécuritaire et économique dans lequel il est plongé depuis de nombreux mois. Abla Junaïdi.
Fanfare de la police au Palais National, face aux 9 membres du Conseil de transition, des images relayées sur les réseaux sociaux qu'on ne pensait pas voir ce jeudi. Mais la réalité a fait irruption lors de la prestation de serment, des rafales d'armes automatiques se font entendre. Quelques minutes plus tard, le Conseil quitte le quartier du Champ de Mars, en proie aux assauts des gangs, pour la villa d'accueil, siège de la primature. Une deuxième cérémonie d'installation devant le corps diplomatique où la membre du Conseil, Régine Abraham, a parlé au nom de la nouvelle équipe tant attendue.
Aujourd'hui ne marque que le premier jour du travail nécessaire pour rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri. C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle et pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti.
Dans le même temps, le Premier ministre de facto Ariel Henry a adressé sa démission depuis les États-Unis, comme il s'y était engagé à l'installation du Conseil. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, c'est Michel-Patrick Boisvert du gouvernement sortant qui continuera à assurer l'intérim de Premier ministre.
Précision d'Abla Junaïdi, on en vient à cette nouvelle journée de bombardements et de combats dans la bande de Gaza.
L'armée israélienne a une fois de plus mené des frappes dans plusieurs secteurs de l'enclave palestinienne, notamment à Rafah, où elle se prépare à une opération terrestre, malgré les mises en garde de la communauté internationale. La guerre à Gaza et ce chiffre, communiqué par l'ambassadeur palestinien en Égypte, il affirme qu'entre 80 et 100 000 Palestiniens sont arrivés en Égypte depuis le début du conflit. Au lendemain de la diffusion par le Hamas d'une vidéo d'un otage israélien détenu depuis le 7 octobre, les dirigeants de 18 pays appellent à la libération immédiate de tous les otages retenus à Gaza. L'accord sur la table pour libérer les otages permettrait un cessez-le-feu immédiat et prolongé à Gaza, affirme ce texte diffusé par la Maison-Blanche et qui est signé entre autres par les dirigeants américains, français, britanniques, mais aussi brésiliens, allemands et portugais, pour n'en citer que quelques-uns. Les négociations menées par l'intermédiaire de pays médiateurs sont au point mort. Israël et le Hamas s'accusent mutuellement de les bloquer.
Les réactions se multiplient après la condamnation à mort de Toumach Salehi en Iran.
Le rappeur a été condamné à la peine capitale hier par un tribunal d'Ispahan pour avoir apporté son soutien au mouvement de contestation de 2022-2023 après la mort de Mahsa Amini. Condamnation inacceptable, selon la France, alors que 10 experts indépendants des Nations Unies se disent alarmés de cette décision judiciaire. Le service de presse du pouvoir iranien confirme la sentence, mais il indique que Toumach Salehi pourrait bénéficier d'une réduction de peine en raison, je cite, de l'expression de ses remords et de sa coopération avec les autorités.
RFI 13h08 à New York, la justice est ce coup de théâtre aux États-Unis.
La cour d'appel de New York annule la condamnation de l'ancien producteur de cinéma Harvey Weinstein pour viol et agression sexuelle. Nous sommes en ligne avec notre correspondant permanent aux États-Unis, Guillaume Nodin. Guillaume, c'est ce procès qui avait lancé la vague MeToo dans le monde.
Et oui, et ce procès va de nouveau avoir lieu. Harvey Weinstein va devoir être rejugé. C'est la décision prise à une courte majorité de 4-3 par la plus haute juridiction de l'État de New York. L'une des juges en désaccord avec cette décision exprime très clairement son opinion par écrit en expliquant que cela ne va pas faciliter la recherche de la justice pour les victimes d'agressions sexuelles et de viols. La décision fait état d'une erreur fondamentale dans la conduite du procès, le fait d'avoir autorisé plusieurs témoignages qui n'avaient rien à voir avec les faits jugés. Il s'agissait à l'époque de donner du contexte en laissant la parole à des victimes de faits précédents et qui n'étaient pas jugées lors de ce procès précis. La condamnation d'Harvey Weinstein à 23 ans de détention est donc annulé, mais il reste en prison en vertu d'une autre condamnation à 16 ans de détention, prononcée dans un autre procès à Los Angeles pour des faits similaires. Il va d'ailleurs être transféré dans un centre de détention en Californie en attendant un nouveau procès. Le bureau du procureur de Manhattan fait savoir qu'il fera tout pour qu'il y ait ce nouveau procès et qu'il restera fidèle à son engagement pour les victimes d'agressions sexuelles.
Guillaume Naudin, correspondant permanent d'RFI aux États-Unis.
À la suite de votre journal, Raphaël Rennes, on part en Espagne qui est au bord de la crise politique.
Mais hier, le Premier ministre Pedro Sanchez annonçait suspendre ses activités et réfléchir à une éventuelle démission. Réaction à l'ouverture d'une enquête visant son épouse pour des soupçons de trafic d'influence et de corruption. La plainte a été déposée par le syndicat d'extrême droite Main Propre. François Musso, vous êtes en direct de Madrid. Rebondissement ce jeudi, le parquet demande le classement de cette enquête.
Exactement, tout s'accélère en Espagne alors que le Premier ministre Sanchez fait peser la menace d'une démission, alors que tout le pays se trouve partagé entre l'indignation, l'incrédulité et la stupéfaction. Vous l'avez dit, le parquet de l'État tente d'éteindre l'incendie. Il vient d'exiger le classement de l'enquête judiciaire sur le possible trafic d'influence dont se serait rendu coupable Begoña Gomez, l'épouse du Premier ministre Pedro Sanchez. Car c'est cette affaire qui a décidé le chef de file socialiste, visiblement meurtri de voir sa femme salie en public, d'écrire une lettre aux Espagnols leur disant qu'il voulait se donner du temps pour savoir si cela valait la peine ou non de demeurer aux commandes du pays. Quoi qu'il arrive, c'est le juge qui décidera et Pedro Sanchez attendra jusqu'à lundi pour rendre sa décision personnelle. Il y a aujourd'hui trois hypothèses: où il part et un gouvernement intérimaire se met en place, ou il convoque de nouvelles élections, ou alors il se soumet à une motion de confiance qui pourrait le remettre en selle, lui et son fragile exécutif, avant les élections catalanes de mai et le scrutin européen de juin.
François Musso en direct de Madrid.
Les suites de cette affaire d'espionnage en Allemagne.
Et un assistant parlementaire du candidat d'extrême droite aux élections européennes a été interpellé. D'origine chinoise, l'homme est soupçonné d'avoir travaillé pour les services secrets de Pékin. Trois autres personnes ont également été arrêtées. Et bien ce jeudi, l'ambassadrice allemande en Chine a annoncé sur X avoir été convoquée par les autorités chinoises. C'est un geste qui en dit long. Mais après tout, c'était une bonne opportunité pour expliquer certaines choses, déclare la diplomate.
En France, c'était une journée noire pour les aéroports avec ce préavis de grève déposé par les contrôleurs aériens.
Après des négociations de dernière minute, la grève n'a pas eu lieu, mais les délais étaient trop courts pour reprogrammer les vols. La plupart des compagnies ont informé leurs passagers à l'avance, mais certains ont eu la mauvaise surprise de découvrir dans le hall d'embarquement que leur vol n'aurait pas lieu. Valentin Hugues s'est rendu à Orly, au sud de Paris, où trois vols sur quatre étaient annulés. Reportage.
Dans le hall d'embarquement, tout paraît normal. Sur les écrans, les vols sont tous annoncés à l'heure. Seulement Kuka n'a pas trouvé le sien.
Ça n'a pas été affiché. Je suis partie demander ensuite aux agents. Ils ont dit que ça a été annulé.
Parce que les nombreux vols annulés ont tout simplement été retirés des écrans. Alors c'est l'incompréhension pour Artemisa. Vous deviez aller où ?
À Lisbonne, juste le week-end. C'est pour ça que si c'est annulé, c'est mort.
Bonjour, excusez-moi, je dois partir avec le vol de 16h45.
Il vous donne le remboursement du billet ?
Non, mais ça, c'est pas normal. Moi, je dois partir aujourd'hui parce que moi, j'ai quitté 3 jours.
Impossible donc de prendre l'avion aujourd'hui.
Bah, je vais essayer de les appeler.
Est-ce qu'on va y aller aujourd'hui ?
Le calme de l'aéroport moins fréquenté aujourd'hui laisse place à l'énervement au guichet d'accueil.
Je veux prendre cet avion pour mon travail.
Mais il n'y a pas d'avion.
Ces deux Italiens ont reçu un mail de leur compagnie ce matin leur proposant un autre vol pour demain, mais rien ne leur indiquait clairement que leur vol était annulé.
Pour moi, c'est très très important de rentrer en Italie pour mon travail. Cette situation est incroyable.
Ce jeudi, dans les aéroports français, la moitié des vols ont été annulés.
Reportage de Valentin Hugues. Le Moulin Rouge a perdu ses ailes.
Mais le célèbre cabaret parisien de la Butte Montmartre sera ouvert normalement ce soir pour accueillir les spectateurs. En revanche, ceux qui espéraient faire une énième photo Instagram du moulin illuminé qui surplombe l'entrée des lieux en seront pour leurs frais. La nuit dernière, les ailes du moulin sont en effet tombées, tout comme les lettres M, O et U de la façade. Aucun acte malveillant, aucun blessé, ni risque d'effondrement assure la direction, qui est toutefois incapable d'expliquer les raisons de cette amputation malheureuse d'un des lieux les plus iconiques de la capitale française.
Il était en préparation d'un nouveau film mais a été rattrapé par la maladie. Le réalisateur Laurent Cantet est mort ce jeudi.
Âgé de 63 ans, Laurent Cantet avait marqué le cinéma français en remportant la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'était en 2008 pour son film Entre les murs. Sophie Torlotin.
Laurent Cantet voulait représenter la complexité du monde au cinéma. Dans son premier long métrage, Ressources humaines, en 1999, il filme l'affrontement entre un père ouvrier et son fils promu DRH lors de l'application des 35 heures dans une usine. Dans l'emploi du temps, il s'inspire de l'affaire Jean-Claude Roman pour montrer un homme qui assassine sa famille lorsque son imposture, il disait travailler à l'ONU, risque d'être dévoilée. Pour Vers le Sud, il raconte les vacances de femmes mûres en Haïti qui s'adonne au tourisme sexuel. Et c'est son quatrième long métrage, Entre les murs, brouillant les pistes entre documentaire et fiction, qui lui assure la consécration internationale. L'écrivain François Bégodeau adapte et interprète le rôle principal de son roman, le quotidien d'un professeur de français dans un collège difficile à Paris.
Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je dirais fallu que je sois fusse.
Entre les murs, qui expose les problématiques de pouvoir et d'inégalité des chances, décroche la prestigieuse Palme d'Or à Cannes en 2008. Toujours soucieux de dénoncer les rapports de force entre les sexes, comme ensuite dans Foxfire, ou entre les classes sociales dans L'Atelier, Laurent Cantet travaillait à un nouveau film intitulé L'Apprenti, qui aurait dû sortir en 2025.
Et le Festival de Cannes salue ce soir la mémoire d'un humaniste acharné qui cherchait la lumière malgré la violence sociale, qui trouvait l'espoir malgré la dureté de la réalité.
Merci Raphaël Rennes, on vous retrouve un peu plus tard dans la soirée sur RFI pour un nouveau point sur l'actualité de la planète.
RFI Soir, Alexis Guilleux.
À suivre dans RFI Soir, reportage dans le sud du Liban à Tyr, une ville située à quelques kilomètres de la frontière israélienne qui accueille des dizaines de milliers de déplacés à cause du conflit dans la région et des échanges de tirs quotidiens entre Israël et le Hezbollah libanais. On appellera également nos confrères de l'hebdomadaire Le Point pour parler de la situation précaire à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Les deux pays discutent du tracé de cette frontière après plusieurs années de conflit. Mais tout de suite, voilà les sports. Bonsoir Babacar Diarra.
Bonsoir Alexis.
On débute avec le tennis pour prendre des nouvelles de Raphaël Nadal à un mois et un jour de Roland Garros.
L'homme aux 14 titres sur le grand chelem parisien s'est imposé pour son entrée au Masters 1000 de Madrid. Sèchement d'ailleurs, 6-1, 6-0 en 1h04 face au jeune américain de 16 ans, Darwin Blanche. Nadal rassuré sur sa chère terre battue mais sans se reposer sur ses lauriers car au prochain tour il affrontera samedi celui qu'il a sorti la semaine dernière du tournoi de Barcelone, l'Australien Alex de Minaur.
Mais sur les cours madrilènes, ce jeudi, un autre membre de la génération de Raphaël Nadal, Richard Gasquet, n'est pas parvenu à franchir le premier tour.
Sorti des qualifications, le Biterrois de 37 ans a été battu 6-2, 7-5 par l'Italien Lorenzo Sonego. Une défaite pas banale car il s'agissait du millième match de sa carrière. Gasquet intègre un club très sélect où il est le premier français dans l'ère Open et le quatrième joueur en activité derrière Djokovic, Nadal et Verdasco. Le tricolore évoque sa satisfaction au micro de Pierre Chaperon.
Faire 1000 matchs, ça fait beaucoup. C'est un gros accomplissement quand même pour moi de faire 1000 matchs sur le circuit. Voilà, avec Verdasco, je suis le plus mauvais des autres. Parce qu'après, c'est quand même, j'ai vu Lendl, Connors, peut-être Federer certainement et Nadal. Donc après, c'est des monstres. On est derrière, mais c'est énorme de faire 1000 matchs. Ça fait 50 matchs par saison pendant 20 ans. C'est quand même un gros chiffre, quoi. Je pensais pas à jouer à cet âge-là et avoir 1000 matchs. Donc c'est déjà presque miraculeux pour moi d'être toujours ici à ce moment-là. Je vais essayer d'en profiter encore un peu.
Et sur les 1000 matchs qu'il a disputés, Gasquet en a gagné 604, raflant au passage 16 titres.
Le football, Babacar, Manchester City veut se rapprocher du leader Arsenal.
Les Citizens, troisième à 4 points des Gunners, ont 2 matchs à rattraper. Le premier, c'est ce soir avec un duel contre Brighton dans le cadre de la 29e journée. Avec 2 victoires sur leurs 10 derniers matchs, les Seagulls ont glissé à la 11e place. Une mauvaise passe qui leur interdit de rêver d'Europe. Symbole de ce passage, le retour de canne de l'Ivoirien Simon Adingra, bloqué à 0 but et 0 passe décisive depuis le 18 février. Écoutez l'avis de notre consultant Philippe Doucet sur la disette du joueur de 22 ans.
Déjà, il est revenu de blessure pendant la CAN. Donc déjà, ça c'est une première explication, c'est-à-dire qu'il est revenu en express et sans doute a-t-il précipité un peu son retour et du coup, l'état de forme n'est pas optimal. En plus du fait que la victoire peut parfois détourner un peu les joueurs des priorités quotidiennes d'un club. Clairement, il a dû digérer ça et en plus sa notoriété a explosé. Là, on parle de lui à Arsenal, qui a l'air très attaché au dossier et qui a l'air vraiment envie de le faire venir. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent le perturber, qui perturbent Brighton en général d'ailleurs, parce que c'est un club qui a fait un super parcours pendant un moment et puis qui s'est un peu effiloché, qui s'est fait éliminer en Coupe d'Europe, qui descend un peu en championnat. Il y a des chances que sa tête soit un peu perturbée par tout ce qui se passe à l'intérieur du club et surtout autour.
On va voir ce soir ce que donnera Simon Adingra avec Brighton contre Manchester City, coup d'envoi 19h temps universel.
Et puis en Espagne, Xavi change de braquet quelques mois après avoir annoncé son départ du Barça en fin de saison.
En janvier, l'entraîneur espagnol avait prévenu que son passage sur le banc catalan prendrait fin en juin prochain. Mais quelques mois ont passé avec de bons résultats en Liga et un quart de finale européen certes perdu face au PSG. Un bilan sans trophée mais suffisant pour que Xavi considère désormais son projet inachevé avec le club. Le technicien restera au Barça jusqu'au bout de son bail qui s'achève en juin 2025.
Merci Babacar. Babacar Diarra pour le Journal des Sports. Notre rendez-vous quotidien avec la presse française comme tous les jeudis avec l'hebdomadaire Le Point. Bonsoir Romain Gubert.
Bonsoir.
On revient avec vous cette semaine sur un reportage que vous publiez à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Reportage signé Marc Nexon, votre envoyé spécial. Après quatre années de guerre, les deux pays essaient de régler leurs différends frontaliers et donc de délimiter leurs frontières. Mais dans le sud de l'Arménie, la population craint à tout moment une attaque de l'armée de l'Azerbaïdjan.
Oui, alors contrairement à ce que vous dites, les deux pays n'essayent pas de régler. Pourquoi ? Parce que l'Azerbaïdjan est toujours à l'offensive. Hein. Les déclarations du président Aliyev sont très claires. Il veut aller jusqu'à Yerevan. Donc c'est un jeu de dupes avec d'un côté un état de 2,5 millions, 2,8 millions personnes, l'Arménie, et en face 10 millions d'Azéris et une armée très puissante, beaucoup plus puissante que l'armée arménienne, qui est une armée en guenilles. Alors Marc Nexon est allé effectivement dans un village à Nerkin, à 100 km de la frontière, où finalement la plupart des gens ont fui. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sous la menace des armes azéries, des blindés azéries, et qu'ils se sentent évidemment dans une menace permanente. D'ailleurs, ils le racontent, hein, il y a des mines, donc c'est principalement des villages agricoles, donc les habitants perdent leurs animaux, et c'est surtout des personnes âgées qui vivent. Il y a quatre militaires dans ce petit village qui vivent dans une casemate, des militaires arméniens, mais qui sont très peu équipés, face à une armée qui bénéficie de drones, qui bénéficie d'un armement ultra moderne et de moyens militaires très conséquents.
Autre événement cette semaine, Romain Gubert, le Premier ministre arménien a accepté de rétrocéder à l'Azerbaïdjan quatre villages frontaliers, oui. Cette fois-ci dans le nord du pays.
Et oui, justement, parce que la seule stratégie pour l'Arménie est d'essayer de sécuriser sa frontière, d'arriver à un accord de paix, bien que les accords existent, hein, et que l'Azerbaïdjan les a clairement violés. Et donc, l'Arménie, dans une démarche finalement pour essayer de sauver ce qu'elle peut de son territoire, rend des villages en espérant calmer les ardeurs et l'appétit azéri. Il faut voir que ces villages, ce sont des pertes déjà, parce que l'eau est coupée, l'eau dépend de villages arméniens qui ont déjà été conquis par l'armée azérie, sont des villages désespérés et qui ne sont plus occupés. Et donc finalement, l'Arménie essaye d'amener l'Azerbaïdjan à une table de négociation en montrant et en offrant ce qu'elle peut offrir, c'est-à-dire pas des armes, mais quelques villages, quelques arpents de terre. Mais parce que l'Arménie est dans une situation de faiblesse extrême.
Oui, il y a une réalité, Romain Gubert, c'est ce déséquilibre des forces entre les deux pays.
Il est fascinant, c'est David contre Goliath. Si vous voulez, vous avez une armée azérie qui, grâce à l'argent du pétrole, est extrêmement bien équipée de matériel turc, de matériel israélien parfois, de matériel qu'ils ont pu acquérir dans tous les marchés internationaux contre force dollar. Et l'Arménie en face, qui est dans une situation budgétaire absolument dramatique et qui n'a plus finalement qu'un seul soutien, c'est la France. Mais le soutien de la France, s'il est réel sur le plan diplomatique, c'est un soutien dérisoire. Hein. L'aide de coopération militaire avec l'Arménie, c'est 50 véhicules blindés et de la formation de personnel. Donc, ce n'est pas un effort démesuré de la part de la France. Sur le plan diplomatique, il est réel et je pense que les Arméniens connaissent le soutien que les autorités politiques peuvent apporter dans les négociations internationales, mais sur le terrain, ils doivent se battre, et c'est ce que dit un des témoignages un colonel qui témoigne dans ce reportage et qui raconte comment il est obligé de se battre avec des Kalachnikovs qui datent des années 70 et face à des gens qui ont, eux, des armes de pointe, des drones et du matériel très équipé.
Voilà, on comprend ce déséquilibre. Merci Romain Guber, veillée d'armes en Arménie, article de votre envoyé spécial Marc Nexon à lire cette semaine dans les colonnes du Point. Plus de 34 000 morts, dernier bilan donné par le Hamas dans la guerre menée par Israël à Gaza depuis le 7 octobre et la crainte d'un embrasement régional qui est toujours présente. Plus au nord, le Hezbollah libanais échange des tirs tous les jours avec l'armée israélienne dans cette zone frontalière. Avec le Liban, il y a plus de 440 morts en 6 mois. Notre correspondante Sophie Guignon s'est rendue à Tyr, ville située à une vingtaine de kilomètres de la frontière israélienne, qui subit de plein fouet les conséquences du conflit.
Tyr est d'ordinaire un port de pêche paisible, mais depuis le 9 octobre 2023, cette station balnéaire prisée des touristes vit au rythme de la guerre entre Israël et le Hezbollah, l'allié libanais de l'Iran. Elias Kayal a ouvert un restaurant italien il y a tout juste un an, mais la guerre a mis un coup d'arrêt à son activité. Si les caisses sont vides, Elias garde le sourire malgré tout.
Je pense que nous sommes au-delà de la récession. C'est vraiment la dépression. Économiquement, ça ne va vraiment pas. Ça fait maintenant 6 mois que nous avons commencé à toucher seulement la moitié de notre salaire, car il n'y a pas de revenus.
Si Elias Kayal a du mal à joindre les deux bouts, d'autres ont tout perdu. La région de Tyr accueille à elle seule un tiers des 100 000 déplacés par le conflit. À l'école primaire pour filles de la ville, pendant que les cours ont lieu au rez-de-chaussée, les habitants des villages frontaliers ont trouvé refuge dans les salles de classe, dans les étages. Zainab Ali Wahid y est hébergée avec ses deux enfants et sa mère.
Mon fils et ma mère dorment sur ce matelas, moi et ma fille sur celui-là.
Leur maison, située dans le village de Jebein, à 2 km de la frontière, a été détruite par les bombardements israéliens.
On s'est enfui à bord d'un pick-up. Les enfants avaient très peur. Après, je suis retournée voir ce qui restait de la maison. Tout est détruit.
En guise de dédommagement, de nombreux déplacés disent recevoir une aide financière du Hezbollah, une manière pour le parti de ne pas perdre le soutien de sa base qui souffre de la guerre.
Grâce à Dieu, le Hezbollah nous aide. Il nous donne $200 par mois. Ça permet de s'occuper des enfants et de les nourrir.
De son côté, l'État libanais, enlisé dans une crise économique lancinante, fait avec les moyens du bord. La mairie de Tyr a ouvert une cellule de crise. À sa tête, Mortada Mehana doit accueillir chaque jour de nouvelles familles sans aucun budget.
Les bombardements s'intensifient. La situation n'est pas rassurante. Au Liban, l'État est ruiné. Il n'y a pas de budget et l'aide des ONG ne suffit pas. Je ne sais pas comment on va continuer. Moi, j'espère que cette crise va s'arrêter car c'est de plus en plus dur pour tout le monde.
Éreinté par près de 5 ans de crise économique et politique, le Liban mettra des mois, voire des années à se remettre du conflit en cours. Sophie Guignon, de retour de Tyr, RFI.
Reportage à réécouter sur RFI.fr. Étape musicale dans RFI Soir avec le dernier titre d'un sextuor français, l'Impératrice, de retour avec un troisième album, ça s'appelle Médaille Igual. Si c'est pour te plaire, Médaille Igual, c'est Linda. Médaille Igual, c'est Linda. J'ai choisi pour moi, c'est par les failles que passe la lumière.
Pour une fois
Méda Igual de l'Impératrice, c'est dans la playlist RFI de ce mois d'avril. Merci d'écouter Radio France Internationale. Vous restez avec nous dans 30 secondes le débat.
Pourquoi RFI dit ça ? Juliette Rangeval.
De quoi le génocide est-il le nom ? Des auditeurs nous interpellent sur la guerre à Gaza et sur l'utilisation de ce mot de génocide entre histoire, justice et politique. Comment rendre compte du conflit en cours ?
Écoutez Pourquoi RFI dit ça ? Avec Juliette Rangeval, tous les vendredis à 19h41 sur RFI.